chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud.
Résistance et alternative au changement climatique. On en parle dans la chronique Plus chaud que le climat sur JetFM 91.2.
Il n'y aura pas d'effondrement, Jacques. Lâchez.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Plus chaud que le climat. On est aujourd'hui à la base, à Nantes, avec Charlotte et Benjamin. On va aujourd'hui parler de la 5G.
Le mois de mars a été marqué par l'actualité sur la 5G à Nantes Métropole, puisqu'il y a eu une série de débats qui ont été organisés et notamment une conférence à Prenantes. Donc on va parler de ça, on va parler de ce qui est à craindre dans la 5G et de ce que nous on peut faire à l'échelle individuelle ou collective avec Benjamin.
Alors bonjour, donc, je suis Benjamin d'Alternative à Nantes. J'ai suivi le débat sur la 5G organisé par Nantes via le Livre blanc pour le climat, document... qui vise à rassembler toutes les mesures que devraient mettre en place la ville et la métropole de Nantes pour pouvoir se conformer aux accords de Paris et éviter de dépasser les 2 degrés de dérèglement climatique. Vous pouvez le retrouver sur l'espace Dialogue Citoyen, le site de la ville de Nantes, et sur la partie Livre blanc pour le climat du site Alternative à Nantes. Donc à ce titre, on a été invité à participer à la mission préparatoire. Donc il y avait un collège associatif, un collège d'entreprise, et un collège de chercheurs. Avec ces 3 collèges, donc une vingtaine de membres, entre le mois de décembre et le mois de janvier, on a élaboré un document qui est le livret du participant, et on devait aussi définir les modalités d'organisation du débat. On est un peu frustrés parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le livret du participant et peu sur le déroulement réellement du débat. Le débat se déroulait sur un temps très court à Nantes. La 5G devait être lancée début avril. Donc maintenant, les premières offres à Nantes ont été lancées. Donc déjà, il faut savoir que la 5G, ce n'est pas une technologie définie, c'est une norme en fait. Il existait déjà avant qu'on appelait la 4G++, donc où il y avait déjà des fréquences et des antennes déjà installées. Le principe de la 5G, c'est des antennes qui vont, elles vont pouvoir envoyer plus de données de manière plus rapide. Par contre, elles vont pouvoir les envoyer beaucoup moins loin qu'avec les technologies précédentes. Donc en France, donc, il y avait déjà les premières bandes qui étaient avant classées plutôt dans la 4G. Ensuite, l'ARCEP, enfin, l'État a mis en vente des bandes de fréquence, les bandes de fréquence 3,5 GHz, et elles ont été attribuées en novembre 2020. Donc depuis cette date, les opérateurs doivent lancer leurs offres, utiliser les bandes de fréquence. S'ils ne lancent pas leur réseau, les bandes seront retirées et pourront être allouées à des nouveaux opérateurs. Et elles doivent toutes avoir leur propre réseau. Et du coup, à Nantes, elles ont accepté de reporter un peu le lancement de la 5G, enfin des bandes de fréquence 3,5 GHz, pour laisser le temps du débat. Mais il y a eu un réel débat organisé, et dont la qualité n'a pas été complètement au rendez-vous. Parce que derrière la 5G, c'est la question de la technologie et du numérique, qui a un impact sur le climat qui va doubler en 5 ans. Et donc il y a des vraies questions à se poser, donc au niveau climatique, aussi au niveau social, des transformations que ça fait dans les liens entre les individus, au niveau de tout ce qui va être surveillance, de vivre à travers des écrans, de l'exclusion numérique, de l'impact sur la santé, de l'impact sur la biodiversité. On mise tout sur le progrès technique pour résoudre la transition énergétique et climatique qu'il faut faire. Or, jusqu'à aujourd'hui, le progrès technologique et le numérique n'ont pas permis de globalement faire diminuer notre empreinte carbone, ni nos consommations d'énergie. L'extraction des matières premières nécessaires ne sont pas faites en France. Or, tout ça, c'est ça qui va avoir le plus d'impact en termes de pression sur les ressources, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de consommation d'énergie. C'est vraiment la production des appareils et les réseaux. Le consommateur ou la personne qui va avoir son appareil numérique, il va voir la consommation énergétique de son appareil. Il ne va pas voir toute l'empreinte du réseau, de la production et du démantèlement de ces appareils-là. C'est un secteur aussi qui se renouvelle très vite. Par exemple, si on doit passer à la 5G, tous les téléphones 4G pourraient devenir obsolètes ou seraient mis en obsolescence, parce que des fois, l'obsolescence, c'est aussi les logiciels qui ne sont plus compatibles avec les anciennes technologies. Or, même si les appareils sont recyclés, d'un point de vue énergétique et ressources, le plastique, on ne va pas bien le recycler. Quand on prend un matériel qu'on recycle, ben, on perd de la matière, on consomme beaucoup d'énergie pour le retransformer. Le mieux, c'est de faire durer un maximum de temps les appareils, et on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là. De plus en plus, les appareils ont des durées de vie courtes, sont difficiles à réparer parce que les choses sont miniaturisées. Il y a des problèmes de brevets et de compatibilité. Donc c'est très compliqué de pouvoir garder des appareils longtemps, de pouvoir les réparer, de pouvoir...
Mais dans la conférence apprenante, il y avait certains intervenants qui disaient que la 5G, c'était un gain d'énergie, justement.
Si on prend en valeur relative, effectivement, il y a des gains d'efficacité, on peut l'observer. Sauf que le problème, c'est que le but, c'est de consommer beaucoup plus de données. Quand on regarde de manière absolue, on consomme plus de... On consomme toujours plus d'énergie, de ressources, et ça c'est quelque chose qui est très important, qui a été, en fait, qui prend pas du tout en compte la dimension globale de ces questions écologiques. Regarder des vidéos en très très haute qualité sur un téléphone, en streaming, ça sert à rien, et on n'a peut-être pas besoin d'avoir accès à autant de vidéos en permanence. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des systèmes de reconnaissance faciale qui peuvent analyser très rapidement beaucoup de données pour suivre tout le monde partout, enfin, toutes ces questions-là méritent d'être posées. La question, c'est pas Amish ou toute technologie, c'est juste comment est-ce qu'on régule le numérique pour pouvoir avoir un numérique qui est à notre service et pas nous qui sommes au service du numérique, quoi. Avec le livre blanc, on a beaucoup insisté sur ce côté besoin de régulation, d'étudier et de suivre le développement de ces technologies-là, permettre et aider financièrement et en facilitant tout le secteur du réemploi, pouvoir upgrader ces appareils, de faciliter les normes, de développer des filières, parce qu'il faut aussi que les filières puissent exister. On appelle aussi la ville de Nantes et toutes les villes de la métropole à prendre des positions fortes pour demander la mutualisation des réseaux, que les dimensions écologiques globales soient mieux prises en compte, pousser pour des normes, justement, comme on disait, de réparabilité et de mise à niveau, de ne pas mettre en place des systèmes de vidéosurveillance généralisée. Le problème de la 5G, c'est que ça développe beaucoup d'usages qui ne sont pas utiles et où les personnes ne sont pas demandeuses et ne vont pas apporter un bien-être supplémentaire.
On a aussi interrogé Pierre de Télécoop, un opérateur téléphonique en fait, et ils sont militants sur ce sujet aussi.
Télécoop, c'est en fait le premier opérateur télécom coopératif qui s'engage dans la transition écologique. En gros, c'est 4% des émissions de CO2 en 2019 à l'échelle mondiale, ils sont liés au numérique. Et c'est un chiffre surtout qui pourrait passer à 8% en fait d'ici 2025. Pour ça, on se base sur des études qui ont été faites par le Shift Project et l'ADEME en novembre 2019. C'est un chiffre déjà qui nous sidère. Et le deuxième élément, c'est que en fait 80% de l'impact carbone du mobile, il est dans sa fabrication. Et comme en France, on garde nos téléphones en moyenne moins de 2 ans, on imagine ce que ça veut dire en fait en termes de potentiel de sobriété sur le côté matériel. Par rapport à ça, il y a une étude, elle a été réalisée par le Haut Conseil pour le climat. C'est un rapport sur la 5G. Et pour nous, enfin pour Télécoop, c'est vraiment un cas exemplaire, la 5G, de l'effet rebond. C'est-à-dire que la technologie en elle-même, elle est plus efficace. Mais par contre, c'est une technologie qui va pousser une croissance exponentielle des usages. Ils ont créé 3 scénarios. Et du coup, il y a un scénario, ce qu'ils ont appelé la 5G sélective, qui va être déployé uniquement pour certains usages. Il ne faut pas le nier, il peut y avoir des usages qui vont être positifs pour notre société. Ensuite, ils ont fait un scénario milieu, ils ont appelé ça la 5G du cahier des charges. Et puis le scénario le plus haut, en termes d'impact, c'est ce qu'ils ont appelé la vraie 5G pour tous. C'est un petit peu le message aujourd'hui un peu dominant dans la presse, dans les pubs, etc. C'est en fait la 5G, ça va tous nous changer notre vie et ça va être super, etc. Ce scénario-là, c'est le plus négatif en termes d'impact global. Il montre fortement une croissance exponentielle à horizon 2030. L'impact en termes énergétiques qu'ils ont chiffré, ils disent entre 17 et 40 TWh de consommation électrique supplémentaire liée à la 5G, mais nos matériels électroniques portent eux-mêmes une grande partie de notre empreinte carbone. Aujourd'hui, quasiment 100% des terminaux, on va dire, par quelques exceptions, ne sont pas compatibles avec la 5G. Donc, si on va vers un déploiement qui est la 5G pour tous, ça veut dire changer des milliards d'objets connectés et d'équipements qui vont devoir se connecter à ce nouveau réseau. Et l'impact, il est énorme à ce niveau-là, quoi. Ce qu'on veut, c'est que cette question-là soit posée, soit débattue, au même titre que le réseau lui-même. Pour être totalement honnête et transparent, je pense que ce sera un processus qui va s'étaler dans le temps, mais ce que l'on propose et ce que l'on recommande, c'est de ne pas l'encourager. Et peut-être que à notre échelle, on aura du mal à stopper le déploiement, mais quand même, on peut avoir un impact en ne renouvelant pas nos matériels et ne pas céder à la tentation de la nouveauté. Enfin, on renouvelle quand même nos téléphones tous les 22 mois en moyenne. C'est-à-dire que ces téléphones, ils fonctionnent toujours. On peut même pas encore parler d'obsolescence à moins de 2 ans, quoi. La sobriété, c'est se poser ces questions-là de l'usage. Finalement, la ressource numérique, est-ce que ce ne serait pas une ressource partagée qu'il faudrait considérer au même titre que voilà, on a appris à fermer le robinet d'eau quand on se brosse pas les dents. Enfin, je prends cette image parce que c'est vrai. Mais finalement, la ressource numérique, c'est un petit peu pareil. Derrière, il y a tout un tas de ressources physiques, matérielles, à la fois en termes d'extraction minière pour construire nos terminaux, mais aussi en termes de consommation énergétique pour faire tourner les serveurs, faire tourner tous les systèmes qui nous permettent de nous connecter en permanence. Et c'est important, finalement, de se poser la question aussi sous cet angle-là. Alors, parce que j'ai aussi envie d'amener des éléments positifs, hein, parce que c'est important. Il y a eu un rapport sur le numérique qui a été réalisé par le Sénat, qui a fait des propositions. Et l'une d'entre elles, hein, par exemple, dans cette idée que la ressource numérique est une ressource partagée et limitée, c'est un contresens de proposer des forfaits illimités. Pour l'instant, ça n'a pas été mis en œuvre, mais il y a d'autres éléments qui ont été suivis d'actions très concrètes. Depuis le 1er janvier 2021, a été mis en place le premier indice de réparabilité sur un certain nombre d'appareils électroniques et électroménagers. C'est une obligation qui n'est pas en vigueur partout dans le monde et on est beaucoup regardé sur l'impact que ça va avoir sur notamment des gros acteurs internationaux, je cite pas leur nom, mais des gros fabricants de téléphones. Et du coup, ça peut aussi faire évoluer les pratiques au-delà de simplement la France. Donc, il faut avoir ce débat, il faut suivre la recommandation qui a été faite par la Convention citoyenne pour le climat, en parler, être informé, etc., et que ce soit une décision qui soit pas seulement une décision technique, mais une décision politique qui inclut au maximum les citoyens et les habitants qui vont vivre dans ces conditions-là, parce que ça pose des questions sur le long terme. Il y a toujours en fait en ce moment les vagues et les réflexions qui suivent la présentation du Haut Conseil pour le climat, voir comment est-ce qu'il va être intégré au sein des différentes initiatives, un certain nombre de villes qui ont mis en place des moratoires, des groupes de citoyens pour les inclure dans les discussions au niveau de la ville. Ça n'a pas été mis en place partout, mais je pense qu'il faut s'en inspirer pour éventuellement se mobiliser chacun à l'échelle de son territoire. Et à l'échelle nationale, il y a des acteurs comme Télécom, il y a des initiatives hyper intéressantes comme la fresque du numérique, qui est un outil formidable aussi de prise de conscience pour pointer des solutions un petit peu concrètes, des auteurs comme l'association Point de Mire qui a fait un certain nombre de recommandations très précises sur voilà ce qu'on peut faire sur son téléphone, voilà ce qu'on peut faire sur son ordinateur, voilà ce qu'on peut faire avec ses différents usages et ses applications. Il y a des leviers qui existent déjà aujourd'hui, mais qu'on peut encore améliorer, c'est diminuer la définition et la qualité. Il y a une grosse partie des utilisateurs de YouTube, j'en ai un exemple, mais qui écoutent de la musique sur YouTube. Et en fait, le flux vidéo n'a aucun usage. Ils utilisent YouTube pour écouter de la musique. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais mis bout à bout, c'est énorme. Je peux vous donner un dernier truc, c'est l'application de la méthodologie des 5 R à la construction de la résilience numérique. Et du coup, le premier R, c'est refuser l'achat de matériel ou de services numériques quand vous le pouvez. Le deuxième R, c'est réduire la consommation de biens digitaux au strict minimum. Réparer vos équipements en priorisant les artisans de proximité. Réutiliser. Aujourd'hui, il y a des millions et des centaines de millions de téléphones dans les tiroirs chez nous, et la plupart marchent encore. Et enfin, recycler correctement tout ce qui ne peut pas être réutilisé. Et recycler, c'est vraiment la dernière étape, en fait. Il y a des documentaires qui sont édifiants là-dessus, et je vous recommande de visionner Welcome to Sodom, qui a été filmé dans la plus grande décharge de déchets électroniques au monde, au Ghana. Et vous comprendrez pourquoi recycler, ça devrait être la dernière solution, quoi.
Voilà, c'est la fin de cette émission sur la 5G. On se retrouve le mois prochain. On parlera low-tech, qui rejoint un peu le sujet de la 5G.